19h-20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, en ce 2 mars, lundi 2 mars 2020, toujours en live dans votre quotidienne sportive du lundi au vendredi 19h-20h. Aujourd'hui, dans cette émission, on accueillera exceptionnellement un illustre journaliste et auteur magnifique avec nous sur cette émission. Je rappelle Fabrice de Cheverny avec son magnifique livre aux éditions Enforant. On reviendra là-dessus, c'est promis. Sans oublier aussi, durant cette émission, le fameux Lyon Saint-Étienne pour le compte du championnat de Ligue 1 Conforama. Lyon qui a éteint Saint-Étienne 2-0. Et aussi, comment un triplé de Benedetto qui a remis Marseille sur les bons rails avec ce 3-2. Le Classico, on en reparlera dans cette émission. Le Real cogne le Barça 2-0 et se relance dans cette fameuse Liga. Et Bordeaux n'y arrive pas à domicile. Match nul, 1-1 contre les Aiglons de Nice. C'est parti, go Time Sport.
Time Sport.
Et aujourd'hui avec moi pour m'accompagner, on a des retardataires, je sais, comme d'habitude, on va les clasher, voilà, c'est le coach Tollé et aussi Hervé Dibi. Mais on a avec nous, encore une fois, Jouba Taleb. Comment ça va, Jouba?
Ça va et toi, Bilal?
Ouais, ça va tranquillement. Là, hein, tu laisseras parler l'invité, Jouba, hein?
Toujours.
Ah,
toujours,
je l'espère, Jouba, je l'espère. Abdelhamed est avec nous, comment ça va, Abdel?
Salut Bilal, bonsoir à tous, ça va très bien.
Et on aura aussi Nabil Zindik, notre conseiller sportif. Avec nous, Fabrice. Comment ça va, Fabrice? Parler du football sur l'antenne de Beurre FM, toujours un plaisir. Et pour la première fois, on vous accueille dans cette émission.
Merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là parmi vous. Il y a des grands connaisseurs de foot. J'ai remarqué Claude Tollé.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Le coach Tollé est avec nous. Comment ça va, le coach Tollé?
Écoute, toujours en retard.
Eh ouais.
On remarque quand même que les Africains de l'Afrique sont en retard.
Le coach Tollé, tu peux pas dire ça. Hervé Dibé, rarement en retard, Hervé Dibé.
Bonsoir Bilal.
Eh oui.
Bonsoir aux auditeurs.
Eh oui, justement. Eh ben, on va s'attarder avec vous, messieurs. Damien, allez, un petit clin d'œil aussi à la réalisation. On espère qu'il sera là aux aguets. Eh oui, à peu près moins de 10 jours, le Paris Saint-Germain, on le rappelle, accueillera le Borussia Dortmund. Mais on en reparlera avec Fabrice, ça c'est promis. Le petit clin d'œil aussi pour Myriam ce soir. Allez, on s'attarde sur justement le championnat de France avec le derby du côté de la région Rhône-Alpes qui opposait Lyon face à Saint-Étienne.
Time Sport, le ras-le-bol.
Eh oui, justement, Saint-Étienne. Ah là 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 là, tout simplement meilleur et plus efficace. L'Olympique Lyonnais a empoché donc le 120e derby de l'histoire contre les Stéphanois. Un doublé de Moussa Dembélé a suffi au bonheur des Guns qui confirment après leur exploit contre la vieille dame italienne, la Juventus de Turin de CR7 en C1. Solide, les Guns confirment après leur prouesse face à la Juve la 3e place et du LOSC n'est pas si loin. Après tout, Fabrice, une réaction?
Bravo aux Lyonnais.
Ouais.
Voilà, ils sont sur une très bonne dynamique. Battent la Juve à domicile. Et puis bon, ce match contre Saint-Etienne, une victoire 2-0 méritée, même s'ils ont souffert en deuxième mi-temps. Voilà, bravo à eux.
Bravo. Oui, on va rester sobre pour l'inviter ce soir. Jouba. Écoute, Jouba.
Je pense qu'il y a un symbole de ce renouveau lyonnais qui s'appelle Guimarães, qui est au milieu de terrain, qui depuis son arrivée du côté du Brésil fait de vrais éclats et au milieu de terrain, ou en tout cas dynamise un peu plus ce milieu de terrain-là. Depuis son arrivée, ses 3 victoires, Metz, la Juve et puis hier contre Saint-Etienne. Guimarães qui vient consolider un milieu de terrain avec Touzard qui est très très bon aussi, buteur face à la Juve. Je pense que Lyon est en train de regagner de nouvelles couleurs et Aulas qui se plaignait du départ de Genesio, je pense que maintenant se ravit de ce que fait Rudy Garcia, l'ancien coach marseillais.
Abdelhamed, on t'écoute concernant ces Lyonnais face aux Stéphanois.
Un derby là pour bonifier la victoire en Ligue des Champions cette semaine. Franchement, il n'y a pas eu de débat entre les deux équipes. C'est vrai que le score, peut-être, il ne reflète pas l'ensemble du match. Parce que voilà, 2-0, il y a un but en première et un but en toute fin de match. Mais quand même, Lyon, ils ont su maîtriser le match dans tous les compartiments du jeu. Saint-Etienne, franchement, on l'a déjà dit sur cette antenne, mais ils sont vraiment méconnaissables. Même si Puel veut tenter des coups, à un moment donné, quand il va se retrouver dans une position plus qu'inconfortable, il devra forcément remettre ses cadres sur le terrain. Après, Jouba parlait de Bruno Guimarães. C'est vrai que ça a l'air d'être un bon joueur, qui a une grosse palette, un gros volume de jeu. Maintenant, faudra voir dans le futur ce qu'il va proposer. Mais attention à Lyon qui a un mois de mars très chargé avec deux fois un match contre Paris et durant deux coupes. Il y a le match retour contre la Juve aussi. Donc c'est le moment peut-être pour Garcia de montrer son statut et son niveau.
On l'écoute, Hervé.
Moi, il y a une chose qui
derby.
Oui, il y a une chose qui m'agace autour du contexte lyonnais. Je suis un peu agacé par cet euphémisme, en fait, par cette euphorie, naissante qu'il y a autour du club lyonnais. Il y a 8 jours, l'OL était un club d'autocar. On leur prédisait, à tort ou à raison, un effeuillage, pour ne pas dire un dépucelage, face à la Juventus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout est oublié. J'ai l'impression que les supporters, que les joueurs, que les dirigeants ont oublié le début de saison totalement désastreux de l'Olympique Lyonnais. J'aimerais juste rappeler que Lyon, à l'heure actuelle, est quand même 5e du championnat, à 15 points du second Olympique de Marseille et à 28 points du leader parisien. Donc j'aimerais vraiment remettre les choses dans leur contexte et dire que la saison n'est pas encore finie.
Hervé, sur le début de championnat, on peut quand même expliquer ça par les choix de Juninho qui devait arriver, qui devait installer la machine. Il a fait des erreurs avec Silvinho, certes, mais derrière, le choix a été bon pour Olas de maintenir Juninho à la direction sportive. Qui, d'ailleurs, c'est lui qui l'a vu, Guimarães. Guimarães, j'en parlais. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur avec devant Dembélé aussi qui a fait de très très belles choses et qui vient se hisser sur le podium des meilleurs buteurs cette saison avec 16 réalisations. Mais il fallait que les choses se mettent en place. C'est vrai que il y a une semaine de ça, tu le disais, on n'aurait pas mis une seule pépette sur la victoire de Lyon à la Juve. Mais force est de constater que le football est fait de telle façon qu'aujourd'hui on les applaudit. Et c'est vrai qu'on avait un autre discours il y a une semaine. Mais je pense qu'ils ont relancé une nouvelle dynamique.
Alors,
en désaccord avec toi, je dis juste que ces deux matchs peuvent pas servir de cache-misère en fait.
T'as Metz aussi avant.
Metz, on parle de Metz. C'est pas un cadeau quand même. Et en plus, ils ont battu Metz avec pas mal de décisions arbitrales assez litigieuses. Tu vois, donc je comprends pas en fait cette euphorie naissante qu'il y a autour de Lyon en fait. On a l'impression qu'ils ont gagné une coupe alors que la saison jusqu'à présent. Quelqu'un me dit si je me trompe, mais c'est pas une réussite. On peut pas dire qu'aujourd'hui la saison de Lyon soit une réussite. Certes, ils sont encore en compétition, ils sont encore en lice en Coupe de la Ligue, ils vont jouer la finale. Ils vont jouer mercredi le match de Coupe de France.
Bien sûr.
Mais je pense pas que lorsque Juninho et Monsieur Olas ont fait la planification de cette saison, ils s'attendaient à être à 28 points du Paris Saint-Germain.
Fabrice de Cheverny avec nous, réaction concernant cette équipe de Lyon, voire même cette équipe.
Il a raison de parler de
Hervé,
de contexte, parce que tout est contextuel. Faut savoir qu'en Ligue 1, on a souvent ce problème-là. Les équipes comme Lyon, même comme le PSG, quand ils jouent des petites équipes, ils prennent pas les choses au sérieux. Et quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils se transcendent. Donc je rejoins exactement ce qu'il dit là. C'est vrai que le début de saison de Lyon est catastrophique, faut le dire. Même s'ils sont cinquième aujourd'hui, c'est pas cette victoire face à la Juve qui va cacher toutes les. Comme il dit, c'est cache-misère, mais c'est pas ça qui va cacher ce début de saison catastrophique. Même si, c'est une réalité, Garcia remet les choses en place.
Hervé, Yacine, on l'a pas eu.
Non, en plus, tu viens de battre, comme tu le disais, Juba, ils viennent de battre Saint-Etienne. Ils viennent de battre l'une des plus faibles équipes de Saint-Etienne des dernières années. Enfin, Saint-Etienne, c'est un club qui, depuis plusieurs semaines, qui a la dérive. Enfin, s'ils changent pas de cap, ils vont finir comme le Titanic. Donc, franchement, t'enorgueillir de battre une faible équipe de Saint-Etienne, c'est un derby, mais il faut quand même mettre les choses dans leur contexte, encore une fois.
Oui, Yacine, le derby, justement, qui opposait Lyon à Saint-Etienne ce week-end.
Vous appelez ça un derby?
Ouais. Moins de 70 km.
J'ai l'impression que des fois, vous n'avez pas pour regarder d'autres matchs de championnat. J'ai écouté un petit peu, on parle de Lyon, on a l'impression qu'on parle du Real de Madrid.
On va parler du Real Madrid, t'inquiète pas. Après le Paris Saint-Germain, on va en parler. Jouba, il a raison.
Faut regarder Bilal.
Il a fait des matchs.
Le coup,
pas de problème.
J'ai écouté, on dit que ça trouvait Juninho, mais Juninho, ça fait 6 mois ou 10 mois qu'il se trompe tous les jours. Guimaraes, il a fait 3 matchs et on a l'impression que
Yacine, je vais te dire un truc.
Alors dis-lui un truc, vas-y.
La Ligue 1 est tellement faible aujourd'hui que il suffit de faire 3-4 bons matchs pour revenir coller à la
Ligue.
Donc, je pense que critiquer Lyon c'est pas le bon sujet, il faut critiquer la Ligue 1.
On pose la question sur le derby. Le derby, c'est quand il y a un match où il y a du football, où il y a de l'engagement, où il y a de l'envie.
Il y a de l'envie là.
On a assisté à un match de derby de CFA.
Ah non, tu peux pas dire ça.
Même niveau que la CFA.
Tu peux pas. Arrête, Yacine, tu peux pas dire ça. Garcia, tu ne respectes pas les Lyonnais, les Stéphanois.
Mais quand on voit la victoire contre la Juventus, c'est la Juventus qui s'est battue elle-même. C'est la Juventus qui s'est battue elle-même.
Okay, avec qui dira oui.
Sa plus mauvaise prestation, peut-être depuis que le club existe.
Non, c'est impossible. Fabrice de Chevarny n'est pas d'accord.
Le lendemain, Garcia, qui a failli même emmener Marseille en Ligue 2, devient un Messi. Un Messi, je pense qu'il y a un seul. Il est à Barcelone.
On l'a pas vu ce week-end, Messi.
Il est nul, Messi.
Alors, le prochain derby, ce sera Lyon-la-Duchère.
Voilà,
ce sera le derby. On parle de derby. Il n'y a rien en termes de football. Il n'y a rien du tout. Ni Lyon, ni Saint-Etienne. Franchement, on a l'impression d'assister à un match de CFA. Le niveau est tellement bas qu'aujourd'hui, n'importe quel joueur de Copacabana qu'on peut ramener, on trouve, c'est la trouvaille de Juninho. Guimaraes, il va coûter 150 millions d'euros. C'est quoi ce football? Qu'on arrête. Il y a des milliers de joueurs
Guimaraes, l'Atlético était sur ses côtes.
Ça veut dire que c'était quand même un très bon joueur.
Non, ça veut rien dire, ça joue. Je suis pas d'accord. C'est pas parce qu'il y a des clubs sur lui que forcément c'est une future pépite ou quoi.
Aujourd'hui, j'ai lu sur un truc. Je ne citerai pas le nom, sur une chaîne de télé.
C'est le confrère de C'est pas où.
Et il a dit, je doute des compétences technico-tactiques de Zidane. Le bonhomme, il n'a pas joué 30 secondes dans une
coupe. Ne dévie pas, on va parler de Zidane.
Je parle des analyses qu'on arrive à faire aujourd'hui.
Oui. Eh bien, la tienne, c'est quoi la tienne, justement?
Quand tu n'as pas joué 30 secondes dans une coupe de récréation et tu as regardé le match d'hier soir, Real-Barça, et c'est une honte de dire ce genre de propos. Parce que Zidane a donné une leçon.
On zappe.
Et on passe au Real Barça.
Tu peux pas dire ça.
Lyon, Saint-Etienne, c'est un non-match.
C'est pour toi. Il est méchant. Lui, il est déchant.
Il
est en forme.
Je ne suis pas déchant. Parce que si j'étais déchant, je
le sais. Benzema, il serait revenu avec toi, c'est ça? On sait, t'inquiète.
Exactement.
Et à cause de toi, le lapsus.
Il a dû bien manger ce week-end.
S'il te plaît, le coach étoilé. Un peu de sérieux avec Fabrice de Chevarny, s'il te plaît.
Mais quand même. Garcia.
Je n'ai même pas parlé de Garcia. En plus.
Alors qu'il y a deux semaines, il disait Garcia, c'est un entraîneur à jeter à la poubelle.
Tu confonds peut-être avec Kamel.
Peut-être
tu confonds avec Kamel. Kamel doit nous écouter ce soir.
J'ai pas entendu dire ça. Kamel, c'est un supporter lyonnais.
On termine avant la pause concernant Rudy Garcia, l'entraîneur aussi Claude Puel.
Une vérité. Je n'ai pas parlé de Garcia depuis le début de l'émission, Yacine. Tu vas entendre
Il te chambre.
Ouais, il aime bien chambrer. Le coach Tolé.
Il m'habitue à mieux quand même.
On peut mal commencer une saison et bien la terminer. C'est ce que laisse penser l'Olympique Lyonnais. C'est-à-dire que tout a été dit. Début de saison catastrophique. Moi, j'entendais après deux journées que Lyon pouvait rivaliser avec le PSG, après leur victoire 6-0 contre Angers et 3-0 à Monaco. Soi-disant, c'est le modèle comme économique derrière le Paris Saint-Germain. Donc, c'est vrai qu'au niveau du championnat, ça reste. C'est compliqué parce que je pense que Lyon et Rennes ne lâcheront pas. Maintenant, ils sont que cinquième.
Ça va être difficile de revenir.
Hervé me parlait de saison, est-ce qu'elle sera réussie ou pas. Si demain l'Olympique Lyonnais, c'est pas impossible, gagne les deux coupes, finit en Ligue Europa et atteint les quarts de finale de Ligue des Champions, est-ce qu'on dira que Lyon aura foiré sa saison?
S'ils arrivent au quart de finale de Ligue des Champions,
je vous rejoins, c'est que alors c'est vrai que t'as cette euphorie parce que Lyon, on les attendait plus, on n'entendait pas parler de ce huitième de finale contre la Juve. Tu bats quand même la Juventus, t'es pas qualifié, mais en tout cas, t'as montré
au niveau de l'envie, au niveau de l'investissement, ce qu'on attend d'un autre club français qui doit être capable d'exceller à ce niveau-là. Et donc là, derrière, là, je ne suis pas d'accord avec mon grand frère, c'est qu'un derby reste un derby, quelle que soit la qualité du jeu. Ça reste le seul derby en France, mais même si la qualité du jeu n'est pas au niveau, on s'en fout de la qualité du jeu, mais le derby reste un derby.
Bien sûr.
Maintenant, attendons de voir. Le Lyon va jouer contre le PSG.
Oui, mercredi.
Ouais, mercredi. Donc là, on a un bon test pour savoir où en est l'Olympique Lyonnais.
Voilà. Ouais, on verra bien. Jouba.
Sur Rudy Garcia, moi, je pense que là, je sais plus si c'est Hervé qui l'avait dénigré ou.
Mais tout sur lui là, dénigré. C'est pas bon là.
Non, mais je sais pas qui avait mal parlé de Rudy Garcia, mais je pense que moi, j'avais pas de doute sur le talent et le potentiel de Rudy Garcia. On voyait ce qu'il avait fait à la Roma.
Attention,
on voit ce qu'il a fait à Marseille.
Attention de te promener sur la calumière.
Marseille, il les a emmenés en finale de Europa League.
Ton avis.
Ils ont été en finale d'Europa League avec Garcia. Ils n'ont pas été avec Bielsa qui avait fait de très belles choses. Ils ont été avec Garcia. Garcia est un bon entraîneur. Moi, j'ai eu aucun doute. Moi, je ne vais pas vous dire que je voyais Lyon gagner face à la Juve. Non, pas du tout. Mais Garcia, c'était pas l'élément à pointer du doigt. Garcia est un moteur de Lyon. Et
merci Djouba et merci à vous, messieurs. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On revient de suite avec Fabrice de Chavarny. Concernant son magnifique livre aux éditions Amphora.
Time Sport revient dans un instant.
Tout savoir sur la marque Rescue du laboratoire Nelson's.
Marie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste bien-être, parlez-nous de Rescue.
Eh bien, Rescue existe depuis plus de 80 ans et c'est la marque numéro 1 de la sérénité en France.
Mm-hmm.
C'est un mélange de 5 fleurs de Bac originales qui aide à équilibrer ses émotions.
Comme en cas de journée stressante, par exemple ?
Oui, c'est ça. Si vous avez du mal à équilibrer votre vie professionnelle, familiale et sociale, avant une réunion, par exemple, ou un examen, les produits Rescue vous aident à retrouver la sérénité.
Et alors, ils se prennent comment ?
Alors, c'est très simple. 2 pulvérisations rapides sur la langue ou 4 gouttes dans une boisson. Il n'y a pas d'effet indésirable et c'est sans accoutumance.
Très bien. Et alors, ils se trouvent en pharmacie, les produits Rescue ?
Oui, tout à fait. Et en parapharmacie. Et d'ailleurs, j'ai vu en ce moment ces petits flacons jaunes en promotion dans certaines pharmacies.
Et pour plus d'infos sur Rescue, alors ?
Eh bien, c'est sur rescue-fleurdebac.com.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Ces produits sont des compléments alimentaires. Ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée, variée et un mode de vie sain. Ne pas dépasser la dose journalière indiquée. Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Quand on est un pro, il n'y a pas de petites économies. Économies sur le matériel, économies sur le carburant, économies. Et pour y arriver, le plus drôle, c'est qu'on ne s'économise pas.
Pour faire des économies de pro, comptez sur le Nissan INV de 100% électrique. Rouler 100 km ne coûte que 3 euros. Et pendant le mois de l'utilitaire, il est à 299 euros hors taxe par mois.
Nissan, innover autrement.
En crédit bail 61 mois, dont premier loyer 2500 euros hors taxe, bonus écologique 3000 euros déduits pour professionnels si accordiaque jusqu'au 31 mars. Détail Nissan.fr.
Cuisine Xina. Pour m'offrir une cuisine super équipée, soit je gagne le gros lot, soit je deviens sympa avec ma belle-mère. Une autre idée ?
Oui, Xina. En ce moment, jusqu'à 5 électroménagers pour 1 euro de plus.
Xina. Oui à vos rêves.
Voir conditions sur Xina.fr. Xina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année.
Deezer présente Deezer Premium.
Le truc quand t'as Deezer, c'est que tu ne comprends pas ceux qui l'ont pas encore. Il y a ceux qui écoutent du son sur un site de vidéo.
Ouais, la qualité est pas ouf, mais ça passe.
Les férus de vinyle.
J'ai tous les 33 de Michael, par contre, ça prend un peu de place.
Et les inconditionnels du CD.
Attends, c'est trois fois rien, il y a juste une petite poussière là.
Bah alors, simplifiez-vous la vie. Avec Deezer Premium, écoutez toutes les musiques que vous voulez, quand vous voulez. En ce moment, 3 mois offerts. Puis 9,99€ par mois sans engagement. Rendez-vous sur Deezer.com. Deezer, le streaming français.
Ça fait quelques jours que ma voiture a du mal à démarrer le matin. Elle aime pas trop l'hiver, je crois.
Oui, si votre batterie ou vos bougies sont déjà un peu fatiguées, avec le froid qui s'installe, vous risquez effectivement de ne pas démarrer. Alors, anticipez. Commandez dès maintenant votre batterie et vos bougies sur Oscaro.com.
Merci du conseil, Oscaro.
Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto neuves et d'origine sur Internet.
Non, mais vous avez entendu Monsieur Franck Ferrand et ses leçons d'histoire sur Akena ? Oyez, oyez, je vais vous raconter l'histoire d'Akena. Il est marrant, mais c'est moi, Chantal Latsou, qui lui ai tout appris. La qualité française, et patati, et patata. Alors, qui c'est la reine des vérandas ?
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM. Et oui, ça parle et ça clash aussi pendant la pause musicale. Mais on est avec vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. On n'oublie pas le 01 53 48 3000 et aussi sur la Twittosphère, prêt à réagir avec toute l'équipe. Je rappelle, On va parler dans cette émission d'un certain Zinedine Zidane face au FC Barcelone d'Antoine Griezmann, notre grisou national. Eh oui.
Votre grisou national.
Ah, votre, voilà. C'est bien. Le, voilà, le ton est donné. Yacine Bouhanni. Il est avec moi, le coach Tolé, oui. Hervé Djibi, Abdelhamed, sans oublier Jouba Taleb. Moi, et aussi notre invité de ce soir, on le rappelle, Fabrice de Cheverny. Et on s'attarde avec lui ce soir.
Time Time Sport.
Eh oui, car nous deux, c'est pour la vie. Ouais, je sais pas, ils disent déjà marié, Fabrice. Moi, en tout cas, mon cœur, il n'est pas pris encore. Ouais, mais vous inquiétez
c'est
pas.
Non,
c'est pas une annonce. C'est... Non, je fais en référence, car nous deux, c'est pour la vie. Bon, on va enchaîner. Arrête, aux éditions Amphora, justement, entrer dans les coulisses d'un étonnant combat. Eh oui, le combat peut-être de certains Parisiens ou Parisiennes du côté du Parc des Princes, le Camp des Loges. Que dire ? Comment vous est venue cette envie de faire, de sortir cet ouvrage, Fabrice?
Très simplement, c'est que les supporters du PSG se sont battus quand même 6 ans, pratiquement 7 ans, pour revenir au Parc des Princes.
C'est vrai.
Ils ont été chassés des stades par le plan Le Prou.
Aussi, il faut le rappeler.
Voilà, exactement. Par des faits de violence de plusieurs centaines de hooligans. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a mis dans le même panier et les hooligans, et les ultras, et les supporters. Donc, ce qui a fait que ça fait un énorme amalgame. On a puni absolument tout le monde. Voilà. Donc, cette histoire, c'est l'histoire du combat des supporters. Donc, ils se sont battus et sur le terrain juridique, et sur le terrain aussi dans les stades, hein, parce qu'ils ont fait ce qu'on appelle des contre-parquages. C'est-à-dire que quand vous avez dans un stade le parquage officiel de votre équipe qui est dans le parquage visiteur, bah, les Parisiens faisaient ce qu'on appelle un contre-parquage, c'est-à-dire qu'au milieu des supporters locaux,
ouais,
il y avait un parquage parisien, des ultras parisiens, qui montraient qu'effectivement qu'ils n'étaient pas violents et qu'ils étaient là pour encourager leur club en toutes circonstances.
Et justement, comment on en est arrivé là, avec ces supporters parisiens, avec cette relation des supporters vis-à-vis du club, de certaines personnes qui ont fait cette histoire du Paris Saint-Germain? Comment, des fois, on a l'impression que voilà, c'est les supporters et la direction du PSG, c'est je t'aime moi non plus.
Ça, c'était
ça, c'est difficile.
Ça, c'était avant.
Ouais,
aujourd'hui,
c'était avant, mais aujourd'hui.
Aujourd'hui, les relations sont tout à fait saines. Les ultras sont revenus depuis 2016. Donc maintenant, on a virage Auteuil, les ultras du PSG qui sont là et qui encouragent le club et qui ont aussi, depuis 2016, leurs abonnements. Donc non, c'est une relation saine entre le club et les supporters.
Le virage Boulogne, que dire ?
Le COP, le COP de Boulogne,
ouais.
pour le moment, c'est vrai que c'est pas d'actualité de le réanimer, de le réanimer tel que le virage Auteuil. Le virage Auteuil étant complet à pratiquement 100%, mais il y a quand même des groupes ultra au COP de Boulogne. Hein. Il y a le bloc parisien, il y a la résistance parisienne, mais ils sont assez minoritaires par rapport au nombre de places qu'il y a en tribune.
Ouais. Jouba, une réaction.
Moi, je voulais savoir quel était l'effet justement de l'arrivée des QSI sur le public parisien. Est-ce que il s'est davantage popularisé? Quel effet a eu justement l'arrivée des Qataris sur cette relation entre le PSG et son public?
On a tendance à croire que c'est le Qatar qui a voulu nettoyer, entre guillemets, bien sûr, les tribunes, ce qui n'a en réalité pas du tout été le cas. Au contraire, Nasser, le président du PSG, a beaucoup œuvré pour que les ultras reviennent. Donc il y a une anecdote que j'aime beaucoup.
Non, c'est laquelle ?
Borrelli a été le président qui a embrassé la pelouse et Nasser a été le président qui a fait revenir les ultras.
Ouais,
donc c'est positif.
Extrêmement positif.
Ouais, pour tous les supporters.
Oui, j'ai une question à te poser. Moi, j'étais au parc ce samedi pour voir Paris Dijon. Et
tu vas beaucoup au parc, hein ?
Oui.
On te voit pas à Bordeaux ni à Lille. Ni à Lyon, ni à Marseille. Comment ça se fait, Hervé Djibi?
Exactement.
Voilà. Ah, il habite à côté. Voilà, hein.
C'est
plus proche. Il va beaucoup au parc, Hervé. La dernière fois, il était déjà avec Saliou. On enchaîne.
Enfin, quelqu'un de perspicace. Est-ce que tu penses que, comme beaucoup d'observateurs, que l'ambiance au Parc des Princes, elle est un peu plus feutrée, qu'il y a moins de ferveur qu'il y a certaines années, en fait?
C'est tout à fait normal. Avant, tu avais les deux virages qui étaient vivants, hein, le COP de Boulogne et puis le virage Auteuil. Et puis, tu avais aussi en quart de virage les authentiques. Donc, ça fait quand même beaucoup de places populaires. Et en latéral aussi, parce que moi, à la base, je suis issu des latérales avant d'aller en virage. Les latérales aussi étaient animées. Hein, sur l'ancienne époque, il y avait de l'ambiance. Vous pouvez rester debout, pas de pas tout le temps, mais parce qu'on cache les autres, mais on pouvait rester debout quand il y avait des belles actions pour encourager, etc. Donc oui, ça effectivement, ça a changé. Tu as tout à fait raison de le souligner. Mais quand il y a des gros matchs de Champions League ou des PSG-OM, PSG-Lyon, l'ambiance est là, hein, l'ambiance est présente. Hein.
Je peux en témoigner. Enfin, j'ai fait plusieurs matchs du Paris Saint-Germain cette saison.
Ouais.
Et le seul match où j'ai vraiment senti qu'il y avait vraiment une atmosphère différente, c'est lors du Classico Paris-OM.
Ouais.
Là, c'était vraiment chaud bouillant. Après, les autres matchs, contre Dijon, contre Bordeaux,
c'est pas la même saveur, peut-être.
Par contre, le virage Auteuil, il y a de l'ambiance tout le temps. Ça, c'est
une réalité. C'est vrai que Boulogne, il fait un peu peine à voir. Quoi.
Mais, non, il donne de la voix quand même.
On n'a pas de tifo, c'est ça, peut-être.
Il n'y a pas la ferveur de Auteuil.
Ouais, mais quand on voit aujourd'hui le système, c'est-à-dire comment s'organisent les clubs pour. Déjà, ils vendent leurs abonnements. Souvent, le nombre d'abonnements, ils vendent d'avance. Donc c'est pas tout le monde qui a accès au stade, donc les vrais supporters souvent ne vont pas au stade. Le prix des billets aussi, quand on parle de football, on parle de sport populaire. Aujourd'hui, est-ce qu'au PSG le sport est populaire? Est-ce que les vrais supporters j'ai couvert peut-être 200 matchs du PSG et j'ai eu là quand j'étais jeune d'assister au match quand il y avait Mustapha Dalem, c'est pas le même Parc du Prince. Ça n'a pas du tout. Est-ce que c'est la faute au PSG ou c'est la faute à tous ces règlements qui sont imposés par la fédération et la Ligue de football?
La question est intéressante.
De Chavani, avec nous.
Merci. La question est intéressante parce que aujourd'hui, au Parc des Princes, notamment en virage Auteuil, vous avez des prix populaires. Je rappelle que l'abonnement en virage Auteuil bleu en haut est à 410 €. C'est un des abonnements les moins chers parmi les grands clubs européens. C'est-à-dire que le tarif, aujourd'hui, est populaire.
Vous mettez le PSG comme un grand club européen?
Ouais. Je parle des tarifs.
Ouais, c'est un grand club.
Je parle des tarifs.
C'est pas un grand club.
Donc, en fait,
c'est
tarif,
pas
le tarif virage.
Tu vas quand même voir Neymar et jouer.
On l'a terminé, Fabrice, s'il vous plaît.
Ils ont gagné le trophée des champions quand même.
Exactement. C'est-à-dire que les tarifs sont ce qu'on retrouve dans des clubs de moyens de tableau en Angleterre, par exemple. Ce qu'on a en virage. En virage Auteuil, parce que les ultras sont revenus et qu'ils ont demandé au club que les tarifs soient beaucoup plus populaires, parce que les ultras, c'est des supporters, c'est des supporters populaires de Paris, de la ville de Paris et de la banlieue parisienne.
Je suis d'accord.
400 euros, c'est énorme. Hein.
Abdel,
non mais
Jouba,
rapport annuel, c'est énorme.
Avec notre invité Fabrice Chevernier ce soir,
malgré le fait que le retour des ultras, c'est vrai que. On a l'impression que c'est beaucoup moins festif. Moi, j'ai été beaucoup dans le virage Auteuil, etc., étant petit. Mais là, on a l'impression que c'est beaucoup plus familial, etc.
C'est vrai.
Dans les matchs à l'extérieur, en Ligue des Champions notamment, quand on va y assister, on a l'impression que c'est là qu'on retrouve tout le monde et que...
Et c'est pas pareil. Et c'est pas la même ambiance.
T'aurais l'impression que ce serait mieux d'avoir un petit parcage comme ça, se retrouver tous ensemble. Maintenant, une petite question pour Fabrice, c'est vrai qu'il est supporter.
Ouais.
Je voudrais savoir un match qu'il a marqué en tant que supporter quand il allait au stade.
Alors, Fabrice.
Il y en a tellement.
Ouais, il y en a eu pas mal.
Celui que. Au parc ou à l'extérieur? Ou tout confondu?
Ton choix. C'est comme tu veux, t'es libre.
Il y en a un qui m'a beaucoup marqué parce que ça m'a beaucoup rappelé l'ancien parc. C'était en parkage extérieur, c'était à Manchester, c'était il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, on était 3000 Parisiens, on a éteint Old Trafford de A à Z, du début à la fin, 45 minutes avant on chantait déjà, 30 minutes après on chantait aussi, et j'ai retrouvé une ferveur populaire que j'ai très rarement...
D'ailleurs, ça a été signalé par les tabloïds anglais. Hein.
Exactement.
Ça a été vraiment signalé par les tabloïds anglais.
Exactement.
C'est la première fois... Qu'un club extérieur, les supporters s'imposent en Angleterre.
Absolument, absolument. Et puis, on voyait les Anglais qui nous, au lieu de regarder le match, et très sincèrement, c'est la vérité, les Anglais nous filmaient, nous prenions photo et nous regardaient, nous, les supporters parisiens, au lieu de regarder.
Ah, c'est incroyable, quoi.
C'est hallucinant.
Ça remonte à quand?
C'était l'année dernière.
Ouais.
Le fameux match.
C'était au pays du football.
Ouais.
La fameuse victoire 2-0.
C'était au pays du football.
C'est ça.
Et à Manchester.
Ouais. Et ils nous ont très bien accueillis. Hein. Je tiens à le signaler. Les Anglais savent accueillir et bravo à eux. Bravo à eux, franchement.
Je parle des autorités.
Je parle des autorités.
Et aller pour supporter leur équipe. Ils ont tué quelque part la ferveur. Ce n'est pas les clubs, c'est la faute aux décisions prises par les pouvoirs publics.
Après, ça va en s'améliorant. Hein. Aujourd'hui, la norme, c'est d'autoriser les déplacements des supporters. Avant, je ne dis pas que c'était la norme, mais avant, ils interdisaient plus qu'autre chose les déplacements. Aujourd'hui, la norme, c'est d'autoriser les déplacements.
Fabrice, vous parliez tout à l'heure... vous parliez tout à l'heure de Nasser qui a ramené les ultras, qui a re-ramené les ultras au Parc des Princes. On a eu l'impression, vous savez, avec tout l'épisode estival, avec la déclaration d'Mbappé au trophée UNFP, qui pouvait déshonorer le club, avec notamment Neymar qui a refusé de revenir à l'entraînement à la date prévue. Je crois que c'était le 5 juillet dernier, qui est revenu une semaine après. On a eu l'impression que, avec, même si ces joueurs en salle le club, les supporters n'en ont jamais voulu à la direction. Les banderoles, moi j'ai pas le souvenir d'une banderole à l'égard ou à l'encontre de la direction. Y a vraiment maintenant une complicité entre le public et entre le public parisien et sa direction.
Alors déjà, y a une nuance, parce que c'est pas Nasser qui a fait revenir les ultras à lui tout seul, mais les ultras, eux, se sont battus pour revenir, hein. Ils ont gagné des procès. Ils ont gagné en justice contre le PSG, justement. Ils ont gagné en justice. Ils se sont battus, se sont suffisamment fait remarquer par Nasser et son staff. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, le président du PSG a fait le nécessaire vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est-à-dire la préfecture de police de Paris et du ministère de l'Intérieur, pour permettre que les ultras reviennent et que le plan Le Prou s'arrête. Mais les ultras, eux, à la base, se sont battus pendant 6 ans pour revenir. Et de là, la deuxième chose, tu parlais des banderoles et tu parlais d'une proximité
avec la direction.
Entre la direction,
j'ai pas souvenir d'une banderole à l'égard de la direction du PSG qui s'est quand même fait marcher dessus. Hein, on se souvient par Neymar, par Mbappé, etc.
Après, les joueurs, ce qui s'est passé avec Neymar et Mbappé, ça arrive dans tous les clubs. Ça arrive dans tous les clubs.
J'ai quand même l'impression que c'est pire
Fabrice,
au PSG.
Je ne pense pas que Neymar ou Mbappé auraient fait la même chose à Marseille.
Ou au Real.
Parce que là où il y a le vrai supporter, parce que quand à Marseille, les résultats n'y sont pas, les supporters, ils sont là, ils ont le mot à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, à Paris, si les choses ne marchent pas bien, est-ce que le supporter a son mot à dire?
Absolument, absolument.
Ça m'étonnerait.
Absolument.
Ça m'étonnerait.
Pas autant qu'à Marseille.
On l'a vu à plusieurs reprises, le supporter n'avait aucun mot à dire.
Il y a eu des banderoles. Il y a eu des banderoles très, très, très.
Contre Neymar, contre Mbappé.
Très violentes. Hein. Il y a eu des
mais pas contre le PSG.
Les supporters se déplaceraient et le feront savoir à Neymar bien comme il faut. Dans sa tête, il sait qu'il n'a pas intérêt à jouer avec les sentiments des supporters.
Il y aurait des banderoles contre la direction.
Ouais, c'est ça que je comprends pas.
Bah, je sais pas, ils se sont quand même fait marcher dessus. Il n'y a pas eu de sanctions contre Neymar.
Ils se sont pas fait marcher dessus, la preuve.
Bah, tu t'appelles quoi, marcher dessus parce qu'il n'est pas revenu
à temps. Mais il n'est pas revenu à temps à l'entraînement.
Ça, c'est pas le seul cas, ça. Bah, je sais pas s'ils l'ont puni financièrement ou pas.
Ils l'ont pas puni, on n'en sait rien. Il y a eu un silence radio, ils se sont fait marcher dessus.
Mais la question qui se pose.
Voilà, c'est pas la question du jour. Moi, je m'en fous de Neymar. Honnêtement.
Absolument. On a un poids dans le club.
Ouais, merci. Absolument. Mais moi, je m'en fous de Neymar. Désolé, c'est plutôt le. Non, mais moi, je m'en fous. Je m'en fous d'être de Neymar. Moi, c'est plutôt le livre qui m'intéresse. Et justement, de donner ce pouvoir.
Dans le club.
Absolument. Enfin, pas dans le club, mais ont un poids. C'est clair et net. Les ultras ont un poids, d'ailleurs. Dans le livre, il y a une anecdote qui est assez hallucinante à la fin du livre qui nous explique que le club n'était pas contre à ce que les couleurs historiques du PSG reviennent. Et le club du Paris Saint-Germain a pris rendez-vous avec le directeur de Nike États-Unis ainsi que les représentants des ultras et l'avocat des ultras, Maître Cyril Dubois, que je salue, et qui ont travailler avec Nike, enfin, pour leur faire comprendre, entre guillemets, que ils voulaient le retour du maillot Echter, et d'ailleurs du maillot Ferd, que vous avez vu, le maillot blanc, hein, qui est revenu. Et ça, c'est les supporters qui ont fait ça. Donc, effectivement, les supporters ont du poids. Il faut pas dire que les supporters au PSG n'ont pas
de poids. Vous êtes
sûr,
vous avez écrit un livre sur les supporters.
Absolument, bien sûr qu'ils ont du poids. 410 euros en virage aujourd'hui. Ça peut paraître cher, certes, mais quand on compare avec ce qui se fait en Angleterre, ce qui se fait dans les autres pays, là aussi, c'est le poids des supporters qui, eux, ont demandé au club de mettre des tarifs populaires. Les supporters ont du poids, évidemment qu'ils ont du poids. notamment au PSG.
Fabrice de Cheverny, merci pour toutes ces réactions concernant ce magnifique livre aussi et ce club qui est le Paris Saint-Germain. On le rappelle car nous deux, c'est pour la vie aux éditions Fora. Vous pouvez vous le procurer dans tous les points de vente habituels et dans toutes les librairries. Oui.
Une dernière. Est-ce que vous avez rencontré Massal Khalafi quand vous avez écrit votre livre ?
Pas encore. Je ne l'ai pas rencontré, mais très sincèrement... si l'occasion se présente, voilà, j'aurais rencontré une des personnes qui aura œuvré au retour des ultras au club.
Parce que dans votre livre, vous mettez en avant, c'est qu'il a fait, il a pesé beaucoup dans la décision du retour des ultras.
Il a pesé vis-à-vis des pouvoirs publics.
Mais oui.
Ceux qui ont pesé aussi, c'était les victoires judiciaires. Les victoires judiciaires menées par les avocats, Maître Cyril Dubois, Maître Pierre Barthélémy aussi, les avocats des ultras, parce que les ultras ont gagné d'un point de vue légal. Face au pouvoir public et face au PSG. C'est une victoire générale, si je puis dire. C'est pas seulement Nasser qui a fait le nécessaire vis-à-vis des pouvoirs publics, mais il y a eu les ultras qui se sont battus, qui ont fait, comme je l'ai annoncé au début, des contre-parquages. Il y a eu tous ces procès qui ont montré que les ultras étaient en réalité victimes d'un système de blacklist, c'est-à-dire qu'ils étaient blacklistés, ils pouvaient plus prendre de place pour aller voir un match du PSG, ils pouvaient plus aller au parc, ils pouvaient plus aller à l'extérieur, ils étaient obligés de ruser. Le livre le raconte très bien, hein, toutes les ruses qu'ont utilisées les supporters pour seulement pouvoir aller au stade, encourager leur équipe.
Malheureusement, ça continue, hein, ce type de ruse. Tu disais qu'à un moment, il y a eu des interdictions, mais ça commence à revenir. Ça reste encore compliqué. Moi, je me souviens de matchs Angers-Marseille ou Strasbourg contre Bordeaux, où des supporters bordelais sont obligés, par l'intermédiaire même des supporters strasbourgeois, de venir cacher au stade pour voir, leur équipe.
Absolument. C'est ce qu'ont connu les Parisiens pendant 6 ans.
Bien sûr, mais c'est ce que continue, ça continue encore. Mais après, et heureusement qu'il y a eu que ça a été gagné et qu'on a retrouvé cette ambiance au Paris Saint-Germain. C'est tellement important d'avoir des supporters, mais malheureusement, on sait comment ça se passe. Voilà, ils ont été victimes
d'une minorité. Marcel, le coach étonné. Plus trop le temps. Pour des réactions avec notre invité de ce soir, Fabrice de Cheverny. Et oui, même dans le timing de cette émission, on essayera d'aborder le cas de l'Olympique de Marseille face au Croco de Nîmes et sans oublier aussi le Real Madrid de Zinedine Zidane face au Barcelone. À de suite.
Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport. Avec Bilal Nenman.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de Fabrice de Cheverny et son magnifique livre, on le rappelle, car nous deux, c'est pour la vie aux éditions Amphora, un livre qui raconte l'histoire des supporters du Paris Saint-Germain, c'est bien ça, le club de la capitale française. Mais aussi ce soir avec moi, dans ce studio, on est toujours en compagnie de Yacine Bouali, du coach Tolé, d'Hervé Dibi, Abdelhamed, Jouba Taleb, et on va s'attarder sur les Crocos de Nîmes face à l'Olympique de Marseille de Villas-Boas.
Time Sport, la victoire.
Et oui, Marseille qui s'est imposé 3-2 à Nîmes ce vendredi soir lors de la 28e journée de la Ligue 1 Conforama, la Ligue des Talents, Yacine, après le coup d'arrêt contre Nantes. Défaite 3-1 au Vélodrome. Et oui, le premier hat-trick aussi de l'Argentin, Dario Benedetto en France, a remis les Phocéens sur de bons rails. Et justement, malgré la réduction du score. La réduction du score.
La réduction,
ça fait rien, tu clashes, mais en ce
c'est
moment.
La vérité,
ouais, c'est
vérité.
Vrai.
Vous avez gagné avec de la réduction.
Du score des deux dans le temps additionnel. Les Crocos enchaînent une deuxième défaite consécutive. Cette place de barragiste ne va-t-elle pas leur coller au basque au vu de la fébrilité de l'effectif? Justement, le coach Tolé.
Tu t'es incliné face à Rennes et l'OM. Donc, tu t'es incliné face au deuxième et au troisième du championnat actuel. Maintenant, force de constater que Nîmes, avant cette rencontre face à l'Olympique de Marseille, était deuxième du classement sur l'année 2020. Franchement, ils étaient quasi condamnés à la Ligue 2 au mois de novembre. Et là, il y a quand même un retour assez spectaculaire. Donc,
c'est juste la Ligue 1 qui est très faible.
Il reste pas mal de matchs. Comment ça, je vois pas la Ligue 1 est très faible après Nîmes,
c'est pas une mauvaise équipe, hein, même si c'est dur, ils auraient pu. Ils proposent quand même du jeu, même si c'est pas la plus exceptionnelle.
Moi, je pense surtout qu'il y a un entraîneur qui fait un gros travail depuis trois saisons, qui a perdu plus de 7 joueurs à l'intersaison, qui a eu des soucis au niveau de la direction notamment. Et quand un club comme Nîmes qui vient de retrouver l'élite aussi fragile, et ben forcément, ça donne une première partie de saison très compliquée.
Ça sera difficile parce qu'il y a d'autres équipes qui luttent aussi. Mais Nîmes est revenu dans le game, en tout cas, pour lutter à rester en Ligue 1.
Est-ce que vous avez regardé le match ?
Oui.
Malheureusement. Est-ce que Nîmes méritait de perdre ? Est-ce que Marseille méritait de gagner ? Je pense qu'aujourd'hui, Nîmes est un des rares clubs en France qui pratique un beau football.
C'est
ils ont
faux.
Joué un très très beau match. Ouais. Et jamais ils auraient dû. Je pense qu'il y a. Je ne sais pas, peut-être l'expérience ou Marseille.
Villas-Boas.
Exactement.
On peut remercier Mandanda. Trois arrêts encore décisifs.
Les trois points, ils doivent beaucoup à Mandanda. Parce que quand on voit le nombre d'occasions que Nîmes a pu transformer en but, je pense que Marseille, un bus n'aurait pas suffi. Parce qu'aujourd'hui, Marseille, si elle continue à jouer comme ça, franchement, moi je les vois pas, même pas au milieu du tableau.
Non mais tu peux pas dire ça, Yassine. Marseille a largement, ils ont un matelas devant, ils peuvent plus maintenant. Marseille, ils ont, je crois, 18 points d'avance sur
on
le.
On parle du match Nîmes-Marseille, on parle pas du matelas de Saint-Germain-des-Prés. Hein. On parle de.
Non mais je te parle du matelas qui a l'OM sur le troisième de Ligue 1.
La qualité du jeu de
Oui, mais si t'as un matelas, ça veut pas dire que tu dois arrêter de jouer.
Exactement.
C'est plus ça qui veut dire, Yacine. Non, parce que c'est pas parce que t'as un matelas que tu peux te permettre tout le temps de faire des mauvaises performances par rapport.
Est-ce qu'en termes de jeu, l'OM a produit un match.
Exactement, c'est ce
un match réussi.
Non, justement, c'est ça. C'est bien de prendre les trois points, mais à un moment donné, peut-être que avec cet avant, justement, tu peux essayer de varier ton style. Peut-être que tu peux avoir plus de possession, etc. Si tu as de l'avance, peut-être travaille pour. Pour la suite, c'est ça que je veux dire, je pense.
Ils ont fait rapidement, le coup, Hervé. Et on aura Fabrice aussi.
Ce que dit Claude. Enfin, ça fait 23 journées que le championnat a commencé.
Oui.
Quelqu'un ici autour de la table peut me dire un match abouti de bout en bout
en termes
de jeu que l'OM a sorti. Il n'y en a pratiquement aucun. Allez, je vais être très généreux. Je vais leur accorder le match contre Lille, qui a été intéressant. Mais à part ça, tu peux pas. Moi, quand je vois l'Olympique de Marseille, je m'attends pas à voir l'Olympique de Marseille. Je veux un jeu chatoyant, un jeu attractif. Non, l'Olympique de Marseille.
Mais est-ce qu'il faut être beau dans le football ?
Mais justement, non.
Non, ils sont efficaces et solides. Ça, c'est pas le problème. Ce qu'on dit, c'est que peut-être qu'ils pourraient proposer autre chose.
S'il vous plaît. J'aimerais avoir Fabrice.
Après, je suis d'accord avec Claude Tollet parce que ce que l'OM veut aujourd'hui, c'est juste la deuxième place. Faire du beau jeu, c'est pas trop dans les
cordes. Fabrice, c'est le Parisien qui parle.
Le beau jeu, on va pas dire que c'est aléatoire, mais ça passe en second plan. Ce qu'ils veulent, Marseille, c'est les trois points. Et
la Ligue des Champions.
Et la Ligue des Champions, et puis garder ce matelas dont tu parlais.
Hervé, on enchaîne rapidement. Merci, Fabrice.
Je pense que parfois, on leur en demande trop aux joueurs. Ils n'ont pas un effectif d'une grande qualité. Tu peux pas t'attendre à ce que.
Ça va quand même.
Ça, c'est lui qui dit.
Attends, laisse-moi terminer.
Rapide.
Ils ont un effectif, juste pour conclure, médiocre, qui repose sur des individualités telles que Mandanda, telles que Benedetto.
Ouais, reste à voir aussi. Hein.
Quand il a envie, tu peux pas demander à un plombier d'être esthéticien. Ben, c'est pareil. Tu peux pas demander à Marseille de déployer le jeu de Liverpool ou le jeu du Bayern.
Merci.
J'ai l'impression que Marseille a joué le Real de Madrid. Mais Marseille a joué contre Nîmes.
On poursuit l'émission avec le football espagnol.
On y vient au Real.
Time Sport. Le duel.
Il a marqué un triplé.
Ouais, le coach de Tolé, le Classico, le Real, justement, qui cogne le Barça 2-0, alors qu'il sortait d'une semaine assez compliquée. Le Real Madrid a logiquement dominé le Barça dimanche soir du côté du Santiago Bernabéu et reprend donc cette fameuse tête du championnat espagnol qu'est la Liga. Zizou peut souffler. Et oui, Yacine, il peut souffler, la magie du football. Zidane et le Real reprennent la main. L'ascendant psychologique, sache-le, est-il définitif selon vous?
Mais Zizou souffle tous les jours. Mais Zizou, la presse française.
Il emmerde tout le monde.
Il donne des leçons de football à tout le monde.
Tu peux pas dire ça parce que Zizou il restait sur deux défaites, que ce soit Levante en Liga et que ce soit face à Manchester City. Tu l'as même vu, sa réaction d'après match face à City.
Il était dégoûté contre
Rudy
Garcia.
Contre Rudy Garcia. Ouais. Il a perdu contre Guardiola et Manchester City.
Il a perdu contre Levante. Le week-end d'avant, il a perdu City face à Levante.
C'est vrai.
Mais qu'on le veuille ou pas, contre City, Riyad Mahrez était l'homme du match. Que ça plaise ou déplaise,
quel
Ouais, De Bruyne, je pense que tu dois changer la marque de télé. Parce que je pense que. Ta télé, tu vois.
Non, tu peux pas dire ça. Fabrice de Chevernier, justement. Kevin De Bruyne,
stratosphérique, ce.
Moi, j'ai pas vu.
Laisse-moi parler un peu, Jouba. Attends, Jouba. Il y a Fabrice, notre invité. Justement,
Zidane a fait du Zidane. Faut savoir que Zidane, c'est plus l'école italienne.
C'est vrai.
Technico-tactique à la Ancelotti, on va dire.
D'accord.
Là, il a fait vraiment le match qu'il voulait, c'est-à-dire prendre le Barça en contre, presser haut.
Casemiro, incroyable aussi.
Ouais, la récup, ce qui est la base du jeu italien. Super équipe du Real Madrid. Je trouve les buts assez beaux, très très beaux, très difficiles à mettre. Les deux ont été. En tout cas.
Et le coaching.
Il était payant. Mariano, qui a marqué ce but de la victoire.
Abdel.
Ouais, non, mais on a quand même assisté à un match, on va dire, équilibré en première mi-temps, qui s'est un peu décanté en deuxième.
Franchement,
c'est là qu'on se dit que il n'y a eu pas énormément d'occasions, que c'était un match quand même assez tactique. Et franchement, ils se sont bien rendus les coups. Maintenant, je pense que Zidane, par rapport à sa défaite de mercredi, ça lui arrive très rarement de se faire prendre, entre guillemets, tactiquement ou même d'avoir que la possession là. Face à une équipe comme le Barça, il a su quoi faire. Il a mis un milieu très solide et devant, ça allait à 2000 à l'heure. Et il sait galvaniser ses mecs. Franchement, Casemiro, Valverde, franchement, ils ont été impressionnants. Alors, et je pense que le Real, sur la deuxième mi-temps en tout cas, et sur l'ensemble du match, s'est mérité la victoire.
Le coach de Tolé, on reviendra à Hervé et aussi à Jouba.
Comme le dit Fabrice, je suis pas étonné moi de la prestation du Real Madrid de Zinedine Zidane. Par contre, moi, le Barça, ça fait longtemps que j'avais pas vu une équipe du FC Barcelone, honnêtement, aussi faible.
Claude, on a tout mis sur le dos de Valverde et de Modric. Finalement, on se rend compte que Valverde,
Messi fait la pluie et le beau temps dans ce club et c'est dommageable. Parce que quand tu vois hier, ce qu'aurait pu, tu le vois, par exemple hier, il engueule Griezmann. Mais t'as vu ça où un mec qui engueule son coéquipier. Griezmann a été freiné, Griezmann ne peut rien faire et Griezmann est en train de gâcher sa carrière s'il reste au Barça.
Hier,
il se freine sur pas mal de choix. Je suis désolé, il aurait pu aller au but plein de fois. Il cherche Messi.
T'es pas faux, Jouba.
Il cherche Messi.
Sincèrement, il a raison.
Mais Messi est en train d'imposer une dictature au Barça. Là où il n'a plus vraiment d'impact.
Messi,
vous savez,
depuis quand il n'a pas marqué
en Classico, ça fait 6 matchs. Depuis une petite stat intéressante, Messi a marqué autant de buts que Ronaldo depuis son départ du Real en Classico. Messi, reste à ta place. Mec, t'es un grand joueur, t'as marqué le football, mais il faut savoir que quand tu es sur la pente descendante, tu fermes un peu ta bouche, t'es un joueur comme les autres, et même si t'es plus brillant, t'es pas le chef du monde. Tu peux pas décider du départ de Valverde, tu peux pas faire tout ce qu'il a fait, mais si c'est intolérable.
C'est le coup de gueule de Jouba, Hervé. On va t'écouter, t'inquiète pas. On reviendra aussi à notre invité Fabrice.
Des absurdités là depuis 2000.
Entre
les clichés sur Messi, c'est le dictateur du Barça, Messi, il est responsable de l'éviction de Valverde. Est-ce que tu as des preuves pour avancer ça?
Je pense que
le déclin du Barça, on en parlait en préambule de cette émission avec le coach Tolé en venant. C'est un déclin qui est global. Je pense que le Barça est arrivé à la croisée de chemin, à une époque où ils doivent faire une révolution, tant au niveau d'effectif qu'au niveau d'identité de jeu. Je pense que le Barça est devenu caricatural. Ils se sont enfermés dans un dogme qui devient presque une caricature, ce jeu de possession qui est devenu totalement stérile, totalement lent, imprévisible, il n'y a pas de changement de rythme. Hier, tu vois un De Jong qui était stratosphérique à l'Ajax, il est totalement bridé. Un mec comme Arthur, je sais pas, il prend pas. À un moment, Arthur, il a 25 mètres des buts de Courtois, il a la possibilité de tirer, de prendre des risques, il cherche Messi. À un moment, assume, prends des risques, montre que tu as des huevos. Je sais pas. Ça fait trois saisons qu'Alves est parti. Il n'y a pas de latéraux droit de certitude. Semedo, il est irrégulier.
Oui, hier, il a fait un bon match. Mais...
Ouais, mais alors, elle vient de qui, la faute? Bah, vas-y, enchaîne.
La direction. Elle est malade, la direction.
Les coupables, c'est la direction.
Bah oui.
Il y a eu Pep Segura, l'ancien directeur sportif qui est parti, qui a laissé sa place à Abidal, qui fait un travail totalement.
Mauvais.
T'as Bartomeu.
Ouais.
T'as le recrutement des joueurs. T'as aussi le statut des joueurs. T'as des joueurs au Barça, tels que Busquets, tels que Suarez, tels que Gérard Piqué, qui se permet d'ouvrir un peu le match, qui surfent depuis des années sur leur titre. À un moment donné, tu ne peux pas construire un club
en
t'appuyant sur des reliques.
Intéressant ce que tu dis.
Griezmann, je suis désolé. Ouais. Griezmann est mauvais depuis le début de la saison. C'est pas la faute de Messi. C'est-à-dire, quand tu vois le match de Griezmann, il fait pitcher. Griezmann devant
mon mais c'est lié à quoi?
Sincèrement. J'ai envie de le prendre dans mes bras, lui dire: viens frérot, je te fais un câlin, tu me fais pitcher.
Non, sincèrement. Alors, sincèrement. 2-3 minutes.
Même Brest,
merci Hervé.
10 minutes. Ouais. Porter plus de percussions.
Non, mais
merci Hervé. Que Griezmann en 70 minutes.
Allez, Fabrice de Cheverny, notre invité ce soir.
Je suis entièrement d'accord avec Jouba. Ce qu'il a dit, c'est la stricte vérité. Quand on voit le match, on voit Griezmann qui est obligé de se retourner alors qu'il est face au but, de regarder derrière lui pour voir où est Messi et pour faire la passe. Il a fait ça 4 ou 5 fois.
Mais est-ce que Messi lui a demandé ça?
Mais bien sûr, j'en sais rien. Messi est un dictateur au Barça.
Messi a fait la même chose avec un mec comme Ibra, mais s'il a fait la même chose.
Non,
mais
évidemment.
Yassine, le coach de tous les
si tu parles d'une révolution,
je peux conclure.
Voilà, parce qu'il y en a qu'on n'entend pas. Jouba.
Il faut arrêter de recruter.
Avec Yassine.
Oui. Nous racontent à
l'ingrédient. Bien sûr. Hervé, on coupe le micro d'Hervé. C'est terminé avec Hervé. On en a terminé pour ce soir. Merci Hervé.
Il faut remettre les choses dans leur contexte.
Alors, justement, Hervé, la Claude aussi.
Le Barça, il y a une semaine, ils ont fait un match stratosphérique, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler.
Ouais.
Hier, ils n'étaient pas
intergalactiques.
Hier, s'il y a victoire, c'est la victoire du Real de Madrid.
Oui, mais avec des si, tu coupes du bois.
Yassine, avec tous les joueurs.
Tu coupes du bois avec des si.
Là, c'est coupé le bois
avec
aussi.
Tous les joueurs du Real. C'est la victoire du Real et c'est la défaite du Barça.
Ouais.
En fait, quoi?
Merci. Et le coach Tolé.
Ah, mais.
Cette histoire de Messi avec Griezmann, moi, personnellement, je veux bien entendre, mais j'attends de voir. Déjà, historiquement, les Français ont du mal à réussir à Barcelone. De deux, on a tellement envie. On croyait qu'il avait réussi, puis il a commencé à aller swinguer dans les boîtes, et puis il a disparu de la circulation. Je pense qu'il faut attendre. On a tellement envie de voir. Félicitations. On a tellement envie de voir aussi Griezmann réussir. C'est vrai que c'est pas évident, visiblement, de jouer avec Messi, mais en tout cas, alors, quand je t'entends parler d'Angela, ça n'existe pas. Enfin, c'est parti du football, ça c'est rien, hein.
Merci le coach Tolé.
Merci
Hervé Zibi. Voilà, vous l'aurez reconnu. Il lâche pas le mic, tout comme Jouba. Oh là 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 là, Jouba. J'ai même pas entendu Abdelhamed, mais t'inquiète pas, Abdel. Demain, je te laisserai le temps d'enchaîner un peu trop. Avec Yacine Bouali, qu'on remercie, le coach Tolé, Hervé Zibi, Abdel et aussi Jouba sans oublier Fabrice de Cheverny d'avoir été avec nous pour son magnifique livre Car nous deux, c'est pour la vie aux éditions Fora. Allez-y, vous le procurez, il est super sympa cet ouvrage. Bye bye et à demain.
Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.